Et dans une semaine à Sainte-Féréole, la 7e édition de la Nuit de la Bourrée va se dérouler. Une nuit organisée par l'association Délire et des Notes en partenariat avec le Centre Régional de Musique Traditionnelle en Limousin. Et j'ai donc le plaisir de vous accueillir, Olivier Durif, rebonjour. Et je le disais, donc vous êtes membre fondateur de cette association créée pour cette Nuit de la Bourrée. Et donc, nous allons ensemble traverser un peu l'histoire de la bourrée en Corrèze. Racontez-nous donc la genèse de cette danse par chez nous.
Alors la genèse, j'aurais du mal à vous en raconter des choses en direct parce que je suis jeune encore, même si j'ai 70 ans, mais elle est née bien avant moi et je n'étais pas là dans les Monédières quand elle était au plus fort de sa renommée, cette bourrée que les gens venaient voir les gens qui dansaient. C'était un spectacle autant qu'une danse. Et donc, moi j'arrive dans les années 70 et effectivement j'arrive avec mes gros sabots, c'est moi qui les ai les gros sabots, pas eux, et avec mes gros sabots en pensant que la bourrée, oui c'est une belle danse du pays, mais ça doit être vraiment les gros sabots. Et ben pas du tout,
alors pas du tout, avez du dit, tout. Pas eux, vous avez dit c'est moi qui avais les gros sabots, pas eux, qui c'est eux?
Eux, bah, c'est les gens qui étaient d'ici, les personnes, on va dire, d'un certain âge à l'époque, qui étaient encore, qui dansaient cette bourrée. Et qui en avaient, j'allais pas dire, ils en avaient à la fois la nostalgie et aussi l'envie qu'on passe à autre chose, parce qu'en fait, bah, voilà, ça avait passé de mode, on peut plus faire ça, les jeunes n'en veulent plus. Dans les années 30, on commençait à arriver, il y avait le bal des vieux et le bal des jeunes. Déjà, cette chose abominable, qui est cette espèce de ségrégation qui vaut pour les deux, les jeunes comme les vieux. La danse, c'est pour tout le monde. La danse, c'est pas d'un âge. La danse, c'est un moment donné de liberté dans une société, et autant qu'elle soit rassemblée. Mais il fallait qu'à un moment donné, les choses se séparent. Les jeunes voulaient le jazz. À l'époque, il n'était pas du jazz. Si on entendait le jazz qui se jouait, c'était sans doute de la musique traditionnelle, mais avec du saxophone au lieu de la cabrette. Mais en fait, bon, voilà, c'était comme ça. Et donc, nous, on arrive et on découvre ce monde de danse. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu danser par des bons danseurs de bourrée, mais je suis absolument ébahi. C'est une danse de Sioux. C'est une danse de Sioux. C'est fou, quoi. Il y a une espèce d'impact. Et on fait cercle, c'est-à-dire qu'on élargit le cercle parce qu'on ne peut pas tous danser la bourrée. Les salles sont petites. Mais quand même, il y a quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Une espèce de grâce, des gens âgés déjà, puis qui d'un seul coup, hop, se sont mus comme par ressort et qui se mettent à danser, tantôt à plat, tantôt en faisant des espèces d'entrechats. Écoutez, vous tombez amoureux instantanément de ça. C'est irrésistible. Aujourd'hui, on les connaît plus, ils sont morts il y a longtemps, ces gens-là. Ces gens qui nous ont montré ces choses-là. Mais honnêtement, je souhaite aux jeunes de pouvoir danser comme ils dansaient eux, quoi. Ça avait quelque chose d'incroyable.
Dans les années 80, alors que vous étiez directeur du CRMTL, me semble-t-il.
Un peu plus tard. Dix ans après, mais on a commencé ce travail dans les années 75, soit jusqu'à 80, dans des associations où le centre n'est venu qu'après, quoi.
Alors, on peut parler de ce travail. Vous avez décidé de collecter ce que vous avez pu du patrimoine de la musique traditionnelle par ici. Racontez-nous cette collecte.
Eh ben, c'est la même chose, ça a été comme pour la découverte de la bourrée. D'un seul coup, on s'est dit, ben oui, peut-être qu'il y a des musiciens, peut-être qu'il y a des chanteurs, peut-être qu'il y a des chanteuses, des conteurs, des conteuses, des gens qui savent des choses. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des violoneux, il y a un certain monsieur dont je ne répéterai pas le nom, qui se prêtait, qui se pensait spécialiste de la question, disait, mais il n'y a jamais eu de violoneux dans les Monédières. Ah oui, il n'y en a jamais eu. Ben écoutez, nous on en a retrouvé 50 ou 60, il y en avait un par village, et parfois plus. À Chaumeil, il y avait une vingtaine de jeunes qui jouaient du violon et qui jouaient pour faire danser.
Vous avez fait du porte-à-porte et vous les avez rencontrés, vous les avez enregistrés?
Ben, ceux qui étaient encore là, effectivement, oui, on les a enregistrés. Et puis, Bon, après un petit instant d'émoi, parce que quand même, on était un peu plus barbu et chevelu que maintenant, mais enfin, quand même bien comme ça. Eh bien, mais finissez d'entrer, il n'y a pas de problème, on va vous dire ça. Et puis, en fait, nous, on s'était pris au jeu, mais eux aussi s'y sont pris au jeu. Parce que finalement, que leur importait qu'on ne soit pas d'ici ou qu'on soit de là, qu'on ne soit pas bien propre sur nous à la façon dont ils le pensaient. Ce qui les importait, c'est qu'on était musiciens et qu'on avait envie de jouer cette musique. Et pour eux, c'était inoubliable. C'était le temps de leur jeunesse où ils avaient appris à jouer du violon. Et ça a commencé comme ça, quoi.
Et puis, il y a une grande question qui est au cœur de vos préoccupations, c'est la question de la transmission, la question de sortir cette notion du folklore poussiéreux de cette musique traditionnelle qui est plus que vivante.
Vous savez, la poussière, c'est personne qui l'a produit, c'est le temps qui l'a produit, la poussière, malheureusement. Et quand on s'installe dans quelque chose qui ne se renouvelle pas, la poussière vient. Donc, les gens qui avaient inventé les danses folkloriques dans les années 20 ou dans les années 30, ici en Corrèze, mais bien ailleurs, ils avaient un parfait état de disponibilité par rapport à tout ce qui était ce qu'ils avaient envie de faire. Ils voulaient faire du théâtre à la campagne, ils voulaient montrer la vie des gens. Tout ça était vraiment très, très moderne, quelque part. Et puis, ils se sont fait prendre, peut-être, hein, pas tous d'ailleurs en plus, parce qu'ils se sont fait prendre au piège de la forme, c'est-à-dire, oh, on va faire comme il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et nous, on a bien remarqué que quand on a constaté, que quand on a fait ces études sur la danse ou sur la musique, on a bien vu qu'il y avait une différence notable entre ce qui était la précision qui était faite par ces danseurs de tradition, qui était avec des figures qui étaient complètement improvisées, et puis là on se retrouvait avec des figures qui étaient imposées. Voilà, dans le patinage artistique, il y a les figures imposées et les figures libres, ben c'était pareil. Donc nous on est resté plutôt du côté des figures libres. Et ben ça change, évidemment, ça change, ça montre la diversité, ça montre que la danse, c'est quelque chose qui est une passion éternelle et qu'on ne danse pas la veille comme on a dansé, comme on dansera le lendemain. C'est ça la vie. Et ces danseurs-là, ils avaient prouvé ça. À l'intérieur d'un genre qui était tout à fait reconnaissable et identifiable. Mais voilà, improvisé. Et c'est ça qui nous a intéressé de transmettre. On n'y est pas toujours arrivé. On a mis plus de temps qu'on ne le pensait. Mais en fait, c'est bien ça, cette pensée-là qu'on a fait diffuser, qu'on a essayé de diffuser, en tout cas en Corrèze, dans le Limousin ici, mais comme bien d'autres dans d'autres régions de France, c'est même la généralité. Et sans regret pour le passé, mais sans non plus l'oubli non plus. On n'a jamais oublié le passé, mais on a prétendu que cette musique-là, cette danse avait du sens pour aujourd'hui. Et sans doute, puisque la nuit de la bourrée, c'est dans 15 jours pour le futur.
Alors, vous parlez du passé et du futur. Parlez-nous de la bourrée.
Alors, le monde populaire, en fait, souvent, il n'est pas si créateur que ça. C'est pas lui qui crée la bourrée. Ça date pas des Gaulois, comme on entend. Ça date des Gaulois. Non, oui, d'accord. Oui, bah forcément, tout date des Gaulois, tout, et même d'avant, Adam et Ève. Mais en fait, le monde populaire, il s'approprie des choses. C'est-à-dire qu'il détourne un certain nombre de danses qu'il a vues danser autrement, ailleurs, et petit à petit, il les fait siennes. Et dans le monde populaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même vécu en France avec 15 siècles d'esclavage. La paysannerie française, c'est une paysannerie qui n'a rien du tout, qui ne possède rien et qui donc vit dans un état particulier qui lui permet d'avoir sa danse à lui, mais qui n'est pas la danse des puissances, qui n'est pas la danse... Mais par contre, on s'en inspire, on va chercher les choses qui arrivent, qui évoluent, avec beaucoup de retard et avec beaucoup de sagesse. Les gens intègrent petit à petit des formes, et la bourrée vient de ça. La forme qu'on connaît aujourd'hui de la bourrée, elle n'est pas si ancienne que ça, elle date du milieu du 19e siècle, dans sa forme achevée. Mais par contre, elle est inspirée par des choses beaucoup plus anciennes, et probablement Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde populaire, lui, il n'a pas d'instrument de musique. Ça n'existe pas. Il faut des sous pour, être, hein, pour avoir des... Et ils n'en ont pas, des sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un seul instrument dont on dispose et que tout le monde tout le monde dispose, c'est la voix. C'est comme ça, les premiers bals et les bals jusqu'au début du siècle, la majorité des bals de campagne en Corrèze, ça se fait à la voix. L'instrumentiste, quand il y a un instrumentiste, eh ben c'est formidable, mais ce n'est pas la généralité. Donc, c'est la voix qui conduit la danse. Et qui est danseur peut être chanteur après, qui est danseuse peut être chanteuse après. C'est comme ça que l'histoire se fait. Et c'est comme ça que ce répertoire-là s'est transmis. Alors là, ça, c'est sûr, c'est transmis de bouche à bouche et d'oreille en oreille.
Et vous, vous êtes là avec votre voix aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Olivier Durif. Est-ce que vous voulez bien chanter ?
Chanter, oui, mais je veux pas. Non, je voulais juste montrer qu'est-ce que c'était que justement cette danse. Ces mélodies qui sont souvent des mélodies très, au départ très simples, puis petit à petit qui deviennent très complexes, dans lesquelles au début on a un petit bout de parole qui sert d'argument. Souvent d'ailleurs, les paroles sont en limousin, en occitan. Je vous garantis que c'est pas le club des poètes, hein. Ce qui est dit dedans, la plupart du temps, c'est un peu vert comme langage. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est surtout ce qui s'y déroule et ce qui peut se chanter. Et bah je sais pas, ça peut faire
Merci beaucoup.
Voilà, c'est ça, ces choses-là qui se transmettent. Et quand on est gamin, on écoute ces gens qui chantent. Souvent, c'est des personnes âgées, parce que souvent, celui qui danse, celui qui chante, c'est celui qui ne peut plus danser ou qui a du mal ou qui ne peut pas toutes les faire. Et souvent, c'est des gens âgés qui font danser avec un bâton monté sur une estrade et puis hardi petit.
Et alors, ils étaient nombreux à chanter ?
Oh là, mais comme disaient les violonneux, oh mais c'était plein ! Dans la chambre à coucher, on était 6, il n'y avait plus de place. Un bal, c'est vite fait. Comme disait le violonneux, un certain violonneux, il dit, pour faire un bal, ce n'était pas difficile. Il suffisait d'avoir un violon et d'amener des filles. Et après, le bal se faisait. Il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, les occasions de bal, jusqu'à la fin du 19e siècle, ce sont des occasions très locales. On ne peut pas aller bien loin. On va à pied. Hein. C'est pas, les vélos commencent juste à arriver, mais la plupart des gens, ils vont à pied. Donc, on ne peut pas aller très loin. Quand on va à 3 km, oulala, mais là, on est allé loin. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que cette sociabilité qui a permis ces bals de se faire et de cette façon-là. Peut-être qu'on y reviendrait un peu d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas. Le Covid a remis en honneur une certaine forme de proximité. Les gens se sont passés à travers les bois pour aller rencontrer leurs copains, même si ce n'était pas permis. Et on voit bien que d'un seul coup, la proximité reprend du sens, elle raconte quelque chose.
Oui, il y a deux choses, je pense, qui reprennent du sens actuellement. On l'a vu notamment aussi avec Brahma ou San Salvador. C'est aussi le désir finalement de se réapproprier cette culture qui a été mise au placard pour des questions politiques, hein, on en a parlé hors antenne, le désir quelque part de faire un lissage sur cette culture française de part et d'autre du territoire, finalement qui a mis de côté des traditions, mais aussi finalement notre culture à tous, et puis à ce désir aussi par la jeunesse de se réapproprier cette culture-là.
Bah, je crois que c'est éternel, hein. Je veux dire, c'est... Moi, je crois que le monde culturel, c'est un monde cyclique. C'est-à-dire, on réhabilite des choses qu'on a oubliées ou qu'on a laissées de côté. D'un seul coup, les jeunes générations trouvent ça génial. Moi, je vous en ai raconté assez pour vous dire à quel point je me suis fait avoir, moi. Mais pour la bonne cause, en fait, en réalité, parce qu'en fait, on a redonné du sens. Et puis, petit à petit, les choses se flétrissent, comme disait le poète. Il n'est si tant belle rose qui, à la fin, ne deviennent gratte-cul. Mais c'est d'autres fleurs qui fleurissent. Et c'est ça le rôle de la transmission, en fait. Ce n'est pas d'être éternel, ce n'est pas de fixer quelque chose de définitif, c'est de permettre que d'autres s'en emparent et les emmènent ailleurs. C'est le principe de toute la vie sur Terre, hein. Les fleurs, les semences s'en vont au gré du vent et refont autre chose. Et c'est ça le principe de cette évolution culturelle aussi, c'est de semer quelque chose. Aujourd'hui, ben effectivement, il y a des groupes nouveaux qui arrivent, notamment en Corrèze, et ces gens-là se sont inspirés des acquis. Ils n'ont pas systématiquement dit que ça ne les intéressait pas. Et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est d'avoir ce recyclage en permanence de l'intelligence humaine. Moi, je pense à ça de toutes les époques. Il y a des gens intelligents, il y a des gens curieux qui savent observer et qui savent en faire quelque chose pour l'avenir et pour le monde autour d'eux.
On va écouter un titre d'un groupe qui va passer pour les nuits de la bourrée, Le Bourgeois et le Paysan de Farem Topetar. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Farem Topetar.
Voilà.
On fera tout péter.
On va l'écouter et puis juste après on parlera de la belle programmation pour la nuit de la bourrée. Vous êtes ici sur Bram FM, nous sommes ensemble jusqu'à 14h en direct.
Thank you.
le bourgeois et le paysan du groupe Farem Tot Petar. Alors, nous sommes ici, enfin vous êtes ici, sur Bram FM. On est en direct jusqu'à 14h et jusqu'à 13h30. Mon invité, c'est Olivier Durif, avec qui nous parlons de la bourrée, de l'histoire un peu de la bourrée ici, dans le coin, en Corrèze. Et puis, nous allons parler évidemment de cet événement, la Nuit de la bourrée. C'est la 7e édition. Vous avez été privé de Nuit de la bourrée pendant 2 ans.
Ben nous, oui, mais surtout les gens qui voulaient danser aussi.
Et oui, vous et les auditoristes qui ont déjà participé et qui sont déjà venus. Alors, 7e édition qui aura bien lieu la semaine prochaine, le 28. Alors, on dit la nuit de la bourrée, mais il y a aussi la journée, soirée et nuit. Donc, parlez-nous de ce programme, Olivier Durif.
Alors, quand on dit d'ailleurs la nuit, c'est la vraie nuit, c'est-à-dire...
Alors,
c'est...
racontez-nous peut-être l'histoire de la nuit de la bourrée.
Eh bien, la nuit de la bourrée, on s'est dit que quand même... Alors, vous savez, dans les bals, la bourrée, c'était pas trop... Les musiciens n'aimaient pas trop, parce qu'en fait, ça prenait de la place, et puis surtout, il y en avait certains qui savaient danser, d'autres pas. Et donc, quand on faisait une bourrée, ben, ça veut dire que les autres allaient boire un coup, et que le bal s'arrêtait, qu'il fallait recommencer après, etc. Et là, on s'est dit... Alors, on s'est dit, il faut quand même faire un truc autour de ça. C'est les fondus de la bourrée, il faut qu'ils en aient pour leur argent et pour leur temps. Et en fait, bah c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire ça commence effectivement dans l'après-midi, effectivement avec les stages, je vais y revenir, mais ça commence vraiment à 19h et ça finit
à
7h du matin pour ceux qui restent, et on leur offre les croissants et
la soupe à l'oignon.
Et la soupe à l'oignon à 3h pour reprendre des forces, voilà, c'est une vraie nuit, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand on a commencé ça, tout le monde disait bah, « vous êtes fous, vous êtes complètement fous ». Bah si, si.
Mais la folie et le génie sont parfois assez...
Non mais je veux dire, les gens sont pris dans cette ambiance et c'est ça qui est intéressant. Après il y a les gens qui arrivent à 9h du soir, qui repartent à 11h30, voilà, ils rentrent chez eux, c'est leur... Mais il y en a une bonne trois quarts qui continuent, bah oui, tiens, puis dans une heure il y a la soupe à l'oignon, allez hop, la soupe à l'oignon, ça, les gens disent bon, on va rester jusqu'à la soupe à l'oignon, puis en fait ça repart après, encore ça continue, voilà, c'est comme ça.
Alors parlez-nous des stages qui ont lieu donc de 14h à 17h samedi prochain, donc dans le cadre de la nuit de la bourrée.
Alors évidemment il y a des stages de danse, alors pas forcément, il y a des stages de danse un peu pour des gens qui veulent en apprendre plus qu'ils n'en savent déjà, mais il y a surtout une initiation qu'on fait pour les gens qui ne savent pas du tout danser ça, et à qui on montre les rudiments, qui puissent rentrer dans la danse. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui... Souvent, les gens disent « Ah ben oui, mais on ne sait pas faire, on peut... » Ben si, ben venez à 17h30, à 18h, pendant 1h15, on va vous montrer les rudiments. Vous pourrez après, en plus, vous ferez connaissance avec un certain nombre de gens qui seront là. Et puis, vous pourrez danser avec d'autres. Vous pourrez vous initier à l'histoire. Et puis, bon, on voit bien, on a vu des gens, effectivement, raides comme des piquets la première année, qui sont devenus des vrais danseurs et danseuses de bourrée. Il n'y a pas de problème. C'est pas... Parce que c'est une danse qui, en fait, qui demande beaucoup de, voilà, comment dire, de souplesse et en fait de délicatesse, en fait, en réalité. C'est pas une danse où on tape comme des sourds. Non, c'est pas que comme ça. C'est ça aussi, mais c'est fait délicatement, voilà. Donc il y a ça, il y a ces stages de danse, et puis des stages musicaux pour ceux qui veulent s'initier à la musique de bourrée. Donc il y a un stage de violon, et puis de chant aussi, un stage de chant pour ceux qui veulent s'apprendre à chanter ces choses-là. Bon, ce sont des stages de vulgarisation, ça dure une après-midi, il faudrait passer 8 jours pour pouvoir être un peu plus qualifié, mais ça permet aux gens, quand ils sont dans le bal, ils ne sont pas tout neufs d'un seul coup, ils ont déjà une culture de ça, et ils savent comment ça marche, c'est un peu ça notre histoire, et c'est fait par des gens, notamment des gens qui vont jouer le soir, donc encore plus d'affinité encore avec ça, c'est comme ça qu'on organise ces stages, donc ça commence à 14h, on peut s'inscrire sur place, par contre c'est bientôt plein.
Oui, il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire. Il y a encore quelques places sur le stage de bourrée. Voilà, il y en a encore quelques places, mais il faut faire vite. Il faut vraiment s'inscrire parce que les autres sont quasiment plein. Ça arrive très vite là maintenant. Et bon, voilà, c'est un... En plus, ça, vous avez un tarif préférentiel après pour rentrer dans la fête. Et
c'est 20 euros, il faut compter 20 euros pour le stage, avec donc le tarif réduit pour l'entrée à la nuit de la bourrée. Il nous reste quelques secondes, on va annoncer donc que l'ouverture du bar et l'entrée du bal se fait à 17h30. Voilà. Des 18h à 19h, initiation aux danses de bal. Et puis à partir de 19h, grand bal pour une nuit de danse avec 5 groupes sur la scène. Trio des barreaux verts, triplette, Farem Tot Pétard qu'on a entendu, Carbone 14, Moisbet, j'adore ce nom, et 4 groupes en interplateau pour faire vibrer le parquet.
Voilà, et puis aussi on peut manger et boire raisonnablement.
Raisonnablement, évidemment. De toute façon, il y aura de quoi décuver toute la nuit en s'agitant,
de toute façon,
en s'envolant je sais pas.
Tout à fait.
Merci infiniment, Olivier Durif, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui.
Eh bien, que d'autres viennent voir cet événement. Ça en vaut la peine.
On peut rappeler le nom de l'association, évidemment, qui organise cet événement, c'est Délirer des Notes, où vous pouvez retrouver toutes les informations. Vous avez une page Facebook, on peut redonner peut-être un numéro de téléphone éventuellement pour la fin des inscriptions pour les événements. Je peux donner celui que j'ai noté ici. C'est le 06 85 87 94 50. Le mail, c'est délirerdesnotes@gmail.com. Et je crois qu'on a tout dit. Encore un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette histoire de la bourrée qui a traversé les années et qui va encore traverser les années pour le futur. Merci infiniment, Olivier Durif, d'avoir été mon invité.